n'as jamais joué rugby dans ta vie. Ferme ta gueule.
Bonjour à vous. Bienvenue dans ce sixième hors-série de 15 bras, 15 jambes. Ensemble, nous allons faire le bilan de la Coupe du Monde 2017 de rugby féminin à 15. Juste avant ça, nous allons faire aussi un micro-bilan de World Series 7 féminin, ainsi que du rapido aussi du championnat français, le top 8. Allez, hop, on y va, en route pour la Coupe du Monde.
Et voilà, maintenant on répond présent. Il va y avoir 10 grosses minutes en deuxième mi-temps et après c'est à nous.
Ça c'est un pronostic. Hein.
Voilà, Bertrand sans doute.
Pour commencer cette hors-série, nous allons faire donc le bilan des World Rugby Women 7 Series pour la saison 2016-2017. Je crois que ça se passe comme ça, je ne sais plus. Donc en fait, donc c'est le tournoi 7 de 7. Et on avait cette saison 12, alors on a 12 équipes permanentes qui sont l'Angleterre, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Espagne, les États-Unis, les Fidji, la France, l'Irlande, le Japon, la Nouvelle-Zélande et la Russie. Mais ça, visiblement, c'était pour 2015-2016, comme quoi c'est pas très à jour Wikipédia. Enfin bref. Donc pour la saison 2016-2017, on a comme classement. Nous avions la Nouvelle-Zélande avec 116 points, parce qu'en fait, si vous voulez, ça le tournoi, si vous vous rappelez, par rapport aux hommes, c'est exactement le même principe. Donc, en fait, il y a des étapes et on remporte des points par rapport à ces étapes-là. Donc, on a la Nouvelle-Zélande, donc 116, l'Australie, derrière, très bonne équipe, 100, le Canada, 98, les Fidji, 66, vous voyez qu'on dérigole énormément au classement. La Russie 66, les États-Unis 62, la France 60, Angleterre 37, l'Irlande 34 et l'Espagne 19. Pour l'Angleterre, vous verrez que normalement ce score devrait s'améliorer. En effet, la fédération a décidé, au moment de la publication de cet épisode, bien évidemment, cela peut être sujetti à modification, a décidé de nous consacrer le rugby féminin, particulièrement les contrats fédéraux, que principalement pour le 7. Voilà, donc on devrait voir l'Angleterre s'améliorer de ce côté-là, et pour le 15, on verra. Par contre, je pense que ça risque d'avoir une grosse baisse. Donc en fait, on avait 6 étapes, voilà. Donc la première étape s'est faite du 1 au 2 décembre, sur 2 jours souvent. Donc c'était à Dubaï, et c'était la Nouvelle-Zélande qui a gagné. Du 3 au 4 février, c'était en Australie, à Sydney, c'est le Canada qui a gagné. Juste après, on avait du 3 au 5 mars aux États-Unis, au Symbol Stadium de Las Vegas, on avait encore une fois la Nouvelle-Zélande qui a gagné, les 2 et 23 avril, c'est à Kitakyushu, pardon, au Japon, c'est la Nouvelle-Zélande qui a gagné encore une fois, c'est tout le temps la Nouvelle-Zélande qui gagne en fait. Du 27 au 28 mai, pardon, le Canada, c'était au Canada, pardon, et c'était à Langford. Et c'est la Nouvelle-Zélande qui a gagné. Et pour la toute dernière étape, donc c'est une étape qui se passe en France, et plus particulièrement à Clermont-Ferrand, au stade de Gabriel Montpied, j'espère y aller en 2017. Et c'est encore une fois, voilà, donc la Nouvelle-Zélande qui a gagné, pas de surprise. Pourtant, l'Australie est une bonne équipe, ils avaient fait forte impression, surtout la Coupe du Monde, n'importe quoi, au jeu de Rio l'année dernière, surtout avec leur joueur Charlotte Kesslin, qui est vraiment une excellente joueuse. J'ai rarement vu quelqu'un être aussi prodigieux avec un ballon. Je reviendrai un peu plus tard sur l'équipe d'Australie par rapport à la Coupe du Monde. Mais ouais, j'aurais vu l'Australie un peu mieux gagner, parce que l'année précédente, sur la saison 2015-2016, et ben c'était l'Australie qui avait gagné, par exemple. Alors, maintenant on va passer au top 8. Alors le top 8 c'est très simple, donc c'est le top 14, mais pour les filles, donc avec moins d'équipes déjà, hein. Pas besoin d'aller trop loin, vu que c'est dans le titre, surtout voilà, ce ne sont pas toutes des professions, je crois qu'il n'y en a même pas des professions, je crois que c'est toutes des amatrices de toute façon, je ne sais pas pourquoi je pose la question. Donc on a par exemple le Blagnac Saint-Aurens rugby féminin, donc à Blagnac. On a l'AC Bobigny 93 de rugby, l'Ovalie Canet, le Lille Métro RC Villeneuve-Voix, Montpellier Hérault Rugby, le Stade Rennais Rugby, l'AS Roumania Rugby Féminin et le Stade Toulousain Rugby Féminin. La section est assez récente. Par exemple, vous voyez, bon, là, il y a beaucoup moins de villes. Et vous voyez qu'il y a pas mal de villes du Nord. En comparaison, je trouve, avec le rugby masculin, excusez-moi. Et c'est assez intéressant. Il n'y a pas aussi de grosses équipes qu'on a dans le. S'il n'y en a que deux. Hein. On a le Stade Toulousain et Montpellier. Après, c'est des équipes qu'on connaît moins sur le rugby masculin. Parce que si c'est peut-être pas plus mal aussi. Que ce ne soit pas encore une fois les grosses équipes qui mènent trop la danse. Donc, comme résultat finaux, on avait au classement donc le Villeneuve MRC Villeneuve-Voix qui a joué 14, donc c'est sur 14 matchs, voilà, et qui en a gagné 12, et qui en a perdu que 2, pour 53 points. Derrière, on avait Montpellier avec 48 points, 10 matchs gagnés, Blagnac, 10 matchs gagnés, 47 points, le Stade Toulousain, 43 points, pardon, le Stade Rennais, 42 points, les deux ont 9 victoires, et après, derrière, c'est la débandade. C'est l'AS Bobigny 93 avec 13 points et que 2 victoires. L'AS Romagna, 2 petites victoires, elle aussi, pour 11 points. Et l'Ovalie Canaise qui descend avec 10 petits points et 14 et 2 victoires. Pardon. Pour le goal average, on n'a pas des trucs très, très, très originaux. On voit quand même que Montpellier et Blagnac sont des équipes qui jouent pas mal, vu qu'ils ont chacun à peu près 220 points de goal average en positif. Par contre, les deux équipes du bas de tableau, donc Romagna et Caen, c'est 345 et 313 à négatif. Après, donc pour les phases finales, on avait Lille contre le Stade Toulousain. Ça se joue en match aller-retour et c'est Lille qui l'a gagné. Et après, on avait Montpellier contre Blagnac-Saint-Orens et c'est Montpellier qui l'a gagné. Et pour la finale, donc c'est un match tout simple, match aller. Ça s'est joué le 29 avril 2017, d'ailleurs, je me suis trompé sur la feuille Wikipédia. Et c'est Montpellier qui l'a remporté sur le score de 17 à 11. Et maintenant, on peut passer à la Coupe du Monde et rugby. Donc en fait, je vais vous faire un petit récap de la Coupe du Monde de rugby. Donc la première édition a eu lieu en 1991. Et elle a eu lieu à Cardiff, au Pays de Galles. Je vous ferai un petit classement après. Et c'est à partir de la de l'édition 98 que la Fédération internationale de rugby, dont l'IRB, l'a reconnue officiellement. Bon, oui, ça a pris un petit peu de temps. Donc en fait, là, on va dire que ça commence pour de bon, pour 2002, 2006, etc. Alors, comme palmarès, on a. Je reviendrai un peu plus rapidement. Je vais faire un petit récap de la toute première édition, parce qu'on en parle très peu quand même, qui a eu lieu donc en 1991. On avait comme équipe, par exemple, pour la poule A, on avait le Canada, la Nouvelle-Zélande et le Pays de Galles. Pour la poule B, on avait la France, le Japon et la Suède. Pour la poule C, on avait les États-Unis, les Pays-Bas. Et l'URSS, et la poule D, l'Angleterre, l'Espagne et l'Italie. Et on a eu droit, donc, aussi incroyable que cela puisse paraître, on a eu droit à une finale Angleterre-États-Unis, et tout ça s'est soldé sur le score de 6 à 19 pour les États-Unis. Donc, les États-Unis ont été champions. Et après, c'est très simple, en fait, si vous voulez, il y a eu aussi une entourlouperie, en fait, comme il y a quand même très peu d'équipes, il n'y a pas de match de classement. Donc en fait, la France a fait ce qui se fait de mieux, donc c'est-à-dire que le match de la troisième place, en fait, je lis, cependant ce match n'est pas au programme, donc c'était contre c'était France-Nouvelle-Zélande, ce match n'est pas au programme du tournoi et n'est enregistré dans aucun document officiel. En France, elle remporte le match sur le score de, attention, accrochez-vous, 3 à 0. J'ai vu des matchs Toulon-Toulouse un vendredi soir ou un Racing Castres, c'était mieux. Pour vous dire, c'est 3 à 0. Bien, magnifique. C'est très français, ça. Après, ben, par exemple, je vais vous parler aussi, je vais vous faire un petit retour sur la Coupe du Monde de l'année dernière, enfin, rapido. Hein. Donc, la Coupe du Monde, la dernière édition, elle s'était passée pas il y a 4 ans, maintenant, je crois qu'ils vont remettre tous les 4 ans. Elle était en 2014, du coup. C'était passé en France, on avait une très bonne visibilité. Et pour celle-là, on a vu l'Afrique du Sud, le Canada, les États-Unis, l'Angleterre, la France, l'Irlande, l'Espagne, le Pays des Galles, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les Samoa et le Kazakhstan. Ça vous épate, hein ? Et là, en fait, c'est très simple. On avait eu comme classement final... Non, je vais pas vous donner le classement, je vais vous donner carrément le... Est-ce que je vois le classement ou pas ? Oh, Wikipédia, là, merde. Il ne veut pas me dire le... classement final. Donc, c'est l'Angleterre qui était champion, voilà, contre le Canada, la France 3e, Irlande 4e, la Nouvelle-Zélande 5e, qui avait fait une grosse, grosse contre-performance, l'Australie, le Pays de Galles, l'Espagne, l'Afrique du Sud, les Samoa et le Kazakhstan. Vous ne savez même pas qui joue au rugby. Donc là, je vous ai fait le récap des Coupes du Monde, la plus ancienne et la plus récente. Et donc, en fait, pour le classement final, c'est très, très simple au niveau du palmarès. C'est donc 91, donc c'est les États-Unis, 94, c'est l'Angleterre, en 98, c'était la Nouvelle-Zélande, en 2002, la Nouvelle-Zélande, en 2006, la Nouvelle-Zélande, en 2010, la Nouvelle-Zélande, en 2014, mais l'Angleterre, et 2007, je vous le dis pas, peut-être vous le savez si vous avez suivi, sinon je vous le dirai après. Donc, à noter que la France finit tout le temps quasiment 3e. Surprise aussi, je spoil, mais aïe aïe aïe, ça spoil. Donc, alors, pour la Coupe du Monde, du coup, 2017, pardon. On avait, cette fois, pas d'équipe africaine, donc l'Afrique du Sud, je pense qu'ils n'ont pas du tout un bon niveau, de toute façon. Donc, on avait l'équipe donc, du Canada, qui est l'une des meilleures équipes au monde. Ils étaient classés, je crois, avant le début du tournoi, ils étaient classés 3e, je crois, si ma mémoire est bonne. Juste derrière la Nouvelle-Zélande et... Peut-être ils étaient 2e, je ne sais pas. Ah non, si, c'est ça. Donc, c'est les premiers, c'est la Nouvelle-Zélande, et les deuxièmes, c'était l'Angleterre. Non, mais par exemple, pour l'Europe, on avait l'équipe d'Angleterre, la France, l'Irlande, qui est haute, l'Italie, le Pays de Galles et l'Espagne. Après, pour l'Océanie, on avait l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et après, on avait Hong Kong et le Japon. Ce qui nous a donné, donc, ici, 3 poules de 4, donc le Canada, la Nouvelle-Zélande, le Pays de Galles, Hong Kong. Après, pour la poule B, l'Angleterre, États-Unis, Italie, Espagne, et la poule C, la France, l'Irlande, l'Australie et le Japon. Avant d'aller un petit peu plus loin, je vais vous faire un petit retour aussi sur l'effectif français. Donc l'équipe est entraînée par Samuel Chérouque et Olivier Lévremont. Et c'est... Ah voilà, on avait comme manager Annick Hérault qui avait été déjà manager de 2009 à 2014. Voilà, c'est ça que je cherchais. Donc alors... Voilà, je suis un peu, je me suis perdu moi-même dans mes délires. Donc c'est Samuel Chérouque, voilà, Olivier Lièvremont aussi qui supplée à l'entraînement, et Annick Hérault comme manager principal. Donc on avait comme pilier Lise Haricastre, Patricia Caricaburu, Anaël Desailles peut-être, oui. Julie Duval, après comme pilier, et Aïlis Dia Traoré. Comme talonneur, on avait comme capitaine qui a fini, qui a arrêté sa carrière, Gaël Mignot, à la sortie de la Coupe du Monde, suivi de Caroline Thomas. En deuxième ligne, on avait Lenaïg Corson. On avait Céline Ferrer, mais elle a été blessée juste avant le début de la Coupe du Monde. Je crois qu'elle s'était au un match préparatoire. Je crois qu'elle s'est blessée, je ne suis pas sûr. Suivi d'Audrey Forlani, et Koumba Diallo a été appelé pour suppléer Céline Ferrer. En troisième ligne, elle, on avait Julie Hannery, Romane Ménager, Safi Ndiaye, même si elle est plus numéro 8 à mon humble avis, mais bref, et Marjorie Mayence. Comme troisième ligne sainte, on avait Manon André. Comme demi de mêlée, il y avait Yana Rivo-Allen et Jade Lepesque. Comme demi d'ouverture, on avait Audrey Abadi, Montserrat Amédée, qui a plutôt joué à l'arrière pour cette Coupe du Monde, mais même elle est de formation et elle est habituée au poste d'ouvreur. Et après, on avait Caroline Drouin, très jeune aussi. Vous verrez que aussi cette équipe, c'est pareil, cette équipe est hyper jeune, il y a pas mal de joueurs. De toute façon, même je me dis certaines, j'ai l'impression que je les vois depuis 1000 ans, en fait, elles ont mon âge. Donc, c'est-à-dire 28 ans. La plupart, et puis la plupart sont assez jeunes, par exemple comme Montserrat Amédée qui est de 1996 et Caroline Drouin qui est elle aussi de 1996. Nous avons très très peu d'expérience au niveau international pour l'instant. Et vu le score qu'on a fait, que l'équipe de France a fait, c'est assez prometteur quand même. On a quand même pas mal de marge de manœuvre. Donc je continue. Après, au centre, on avait Elodie Poublan, Carla Niesen, je ne vais pas écorcher leur nom, excusez-moi, Caroline Ladanius. Et à l'aile, on avait Caroline Boujard, Chloé Pell, Shannon Isard et Elodie Guiglion. Et à l'arrière, on avait Camille Gracino, dit Gracinator. Voilà. Pour l'équipe de France. Je vous fais pitié des autres équipes, hein, parce que Il y aura des... Déjà que j'arrive pas à dire les noms des Français des fois, alors autant vous dire. Le reste, hein. Ah si, bon, chez les Irlandais, il y a des Fitzpatrick. Hein. Chez les Néo-Zélandais, il y a des Fitzpatrick. Je comprends pas. Je sais pas pourquoi il y a des Fitzpatrick partout. Il me manquait quelque chose, je pense. Enfin bref. Donc voilà, c'était l'effectif de la France. Alors, comme résultat, après, on avait. Oui, c'était un peu improvisé cet épisode, excusez-moi. J'ai préféré le faire un peu à la One Again, excusez-moi. Donc aussi, voilà, c'était pour ce format de cette Coupe du Monde aussi, on peut dire que ça prenait en compte les nouvelles règles qui ont été établies. Donc à savoir que, par exemple, que je vous avais parlé dans un épisode, dans l'épisode court, l'un des tout derniers épisodes de 15h15, celui de la reprise pour la saison 2017-2018, où je vous parlais, par exemple, que l'essai de pénalité, maintenant, n'a plus besoin d'être transformé, donc il y a 7 points d'office, que la règle des rucks a été modifiée, donc un ruck, maintenant, c'est constitué que de deux joueurs, plus besoin d'un joueur adverse pour que le ruck soit positionné, donc ça évite ce qui s'appelle donc les rucks, la défense fantôme, donc à savoir que le ruck n'était constitué qu'à une époque que d'une seule équipe, par exemple, et donc l'équipe adverse pouvait, il n'y avait pas de hors-jeu en fait, parce qu'il fallait au moins un joueur de chaque équipe pour que le ruck soit formé, donc pas de hors-jeu, et donc les joueurs pouvaient s'amuser à traîner au-delà du ruck. Mais ça interférait avec le porteur du ballon, c'est un peu compliqué, mais bref. Donc pour la poule, je vais vous parler du tour éliminatoire. Donc pour la poule A, on avait la Nouvelle-Zélande qui a fait 3 victoires, tout simplement, 15 points, on a pris le maximum. À noter que la Nouvelle-Zélande je peux le dire, hein, elles ont fini championne, hein, avec quasiment 50 essais. Impressionnant, hein. Donc après, derrière, on avait le Canada qui a eu 2 victoires, le Pays de Galles, 1 victoire, et Hong Kong, 3 défaites. Et comme un match, on a eu donc la Nouvelle-Zélande contre le Pays de Galles, 44-12. Le Canada contre Hong Kong, 98-0. La Nouvelle-Zélande contre Hong Kong, record absolu, c'est tout simplement 121-0. Il y a eu, attention, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14, 15, 16, 17, 19 essais. Rien que là. 19 essais. Après, on a eu Canada-Pays de Galles. Le Canada a un peu chié quand même, parce que le Pays de Galles, c'est quand même pas une grosse équipe, hein, je trouve. Sur le score de 15-0. Et après, on a, pour la dernière journée, c'était Canada contre la Nouvelle-Zélande, 5-48. Et Pays de Galles, Hong Kong, 19-15. Eux se sont pris des points de Hong Kong. Pour la poule B, donc on a eu l'Angleterre premier avec 15 points, pareil, donc tous les points possibles ont été pris. Juste derrière, les États-Unis qui ont fait quand même 11 points avec 2 victoires, l'Espagne 1 victoire, 4 points, et l'Italie 0 points. Non, rien. Du coup, ce qui nous a donné l'Angleterre 56-5 contre l'Espagne, les États-Unis ont battu l'Italie sur un score de 24-12, finalement, comme quoi les Italiens, là ils n'ont pas pris une tôle parce que les États-Unis c'est quand même une assez bonne équipe. Je trouve. L'Angleterre 56-13 contre l'Italie. Voilà, du coup, l'Angleterre, ils ne sont pas secondes parce qu'on voit qu'il y a quand même un gros gap entre les équipes. Hein. Au rugby masculin, ça commence à se réduire. Voilà. Doucement quand même, parce que bon, l'Italie qui décroche un peu, mais bon, on va dire que le tiers 2 s'est rapproché pas mal du tiers 1. Mais au rugby féminin, il y a encore pas mal d'écarts. Ben voilà, par exemple, États-Unis, Espagne, ben 43-0. Angleterre, États-Unis, 47-26. Et Italie, Espagne, 8-22 pour les Espagnols. Pour la poule C, non, la poule de la France. Donc la France a fini première. Elle n'a pas pris tous les points possibles, mais elle a quand même fait 14 points. Donc c'était au moins 2 points de bonus offensif. Elle a gagné tous ses matchs. L'Irlande derrière a fait 8 points avec 2 victoires. L'Australie, une petite victoire avec 6 points. Et le Japon a fait 0 victoire. Donc on avait, c'est assez simple, Irlande-Australie, 19-17, sachant que l'équipe d'Australie n'est vraiment pas une grosse équipe, parce qu'en fait, ils spécialisent plus spécifiquement sur le 7, et en fait, le 15, c'est un peu, voilà, on est beau, on vient se montrer, et on se prend des tannées, et on se barre. Donc voilà, pour l'instant, c'est un peu ça, ils préfèrent miser sur le 7. Donc après, on a eu France-Japon, donc 72-14. Après, on a eu un Irlande-Japon, qui était très bon. Visiblement, je ne l'ai pas vu moi, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc ça s'est fini sur le score de 24 à 14. Les Iraniens en ont chié leur chapeau. La France a battu l'Australie sur le score de 48 à 0. Sachant que l'Australie n'est pas la meilleure équipe, mais ça, quand même, ça va, c'est quand même un bon niveau. Le 48 à 0, il passe bien. L'Australie a battu le Japon sur le score de 29 à 15. Et la France a battu l'Irlande sur le score de 21 à 5. Alors après, je vais faire les matchs en descendant selon comment eux ils l'ont marqué. Par exemple, pour le de la 9e à la 12e, de la 9e à la 12e place, on avait un Italie-Japon qui s'est soldé sur le score de 22 à 0 pour les Italiens. Parce qu'en fait, alors du coup, qui c'est qui a été qualifié? Je vous ne l'ai même pas dit parce que voilà. Donc en fait, c'est très simple, c'est la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre, la France et les États-Unis qui sont qualifiés, voilà. Parce que les États-Unis étaient le meilleur deuxième. Voilà. Donc je reviens à ma 9e et 12e place. Donc l'Italie a battu le Japon sur un score de 22 à 0. Et l'Espagne a battu. L'Espagne a battu Hong Kong sur un score de 31 à 7. L'Italie a battu, après, pour la 9e place, l'Espagne sur un score de 15 à 20. Hein, de, non, sur a battu. Voilà, l'Espagne, pardon. Italie-Espagne, 20-15. Voilà. Et après, on a eu Japon-Hong Kong, 44 à 5. C'était beau, hein. Les matchs pour la 5e place. Donc, on avait Canada-Galles, 52 à 0. Et Irlande-Australie. Et bien, les Australiens, cette fois, se sont vengés. Elles se sont vengées, plutôt. Sur le score de 24 à 36. À la fin, on a eu Canada-Australie, 43 à 12. Parce que, bon, le Canada, ça reste quand même une grosse équipe. Donc, c'est très logique. Et après, pour la 7e place, donc c'était Galles-Irlande. Et l'Irlande a fini sa Coupe du Monde de la plus mauvaise des façons. C'est-à-dire qu'il ne se qualifie même pas. Pour la... Parce qu'il faut être dans les 7 premiers, je crois, pour se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Et ils finissent 8e parce qu'ils perdent pour le match de la 7e place sur le score de 27 à 17 contre le Pays de Galles. Après, donc du coup, on a eu comme demi-finale la Nouvelle-Zélande contre les États-Unis sur un score fleuve de 47 à 12. Et après, on a eu l'Angleterre qui a joué contre la France. Et la France s'est inclinée sur le score de 20 à 3. Et la finale, c'était Nouvelle-Zélande-Angleterre. Et victoire de la Nouvelle-Zélande, c'était très logique. Sur le score de 41 à 32, quand même, l'Angleterre a charmant vendu sa peau. Et la France, pareil, a eu un petit peu de mal contre les États-Unis, surtout en seconde mi-temps. Même s'ils ont énormément déroulé en première mi-temps. Donc, États-Unis, France, 23 à 31. Donc, la France finit 3e, encore une fois. Pour l'instant, les Françaises n'ont jamais fait de finale. Donc, avant de revenir un petit peu sur les matchs, etc. Donc, c'est Nouvelle-Zélande, premier, Angleterre, France, États-Unis, Canada, Australie, Pays de Galles, Irlande, Italie, Espagne, Japon et Hong Kong. Et c'est très simple, le goal average de Hong Kong, c'est moins 306. Quand vous voyez le peu de matchs qu'ils ont fait, c'est quand même exceptionnel. À 5 matchs, hein. Donc ça fait un sacré score. Comme meilleure réalisation, on avait Portia Woodman qui joue à 7. Elle a marqué quand même 65 points. Et juste derrière, c'était Kendra Cockthage de la Nouvelle-Zélande aussi, 62 points. Pas mal, hein. Et au nombre d'essais, c'est très simple, c'est sans partage. Donc c'est Portia Woodman qui a marqué 13 essais. Même Joe Rokosoko, il fait la gueule, et même, comment il s'appelle, le hashtag, même John Alumu, il fait la gueule. Alors, qu'est-ce que moi j'en ai pensé? Alors, je vais reprendre les matchs de la France dans l'ordre, ça me permettra aussi de parler des équipes. Donc, j'ai vu que les matchs de la France et la finale, parce qu'après, il fallait Eurosport, et moi, j'ai été un petit peu en vacances à droite à gauche, donc j'ai pas eu trop le temps de suivre. J'ai l'air d'un peu en filigrane, quand même. Moi, j'ai trouvé le niveau de jeu assez intéressant. J'ai été très surpris par les Françaises. Alors, peut-être que certains ne le savent pas, mais l'équipe, l'arrivée de Bernard Laporte fin décembre de l'année dernière, à la tête de la FFR, a été le point de départ d'un remaniement massif sur pas mal d'équipes françaises. Pour les hommes, les masculins seniors, ça n'a pas bougé. Guinovers s'est resté en place. Par contre, pour les seniors féminines, il y a eu du départ. Moi, j'ai un peu du mal à comprendre. Mais il faut rendre à César ce qu'il y a à César. C'est à savoir que même avec le peu de temps qu'ils ont eu, même si ils ont eu énormément, une grosse plage de travail, hein, les filles, enfin, en comptant la Coupe du Monde, c'est comme si elles étaient restées 3 mois ensemble. Hein. À savoir que pour des amatrices, bon, il y en a certaines qui doivent être un contrat fédéral, peut-être, je sais pas, pour du 7, je suis pas sûr à 100%, je préfère pas dire de bêtises, mais la plupart sont, la majorité sont des amatrices. C'est absolument impressionnant quand même d'arriver à trouver 3 mois déjà, parce que bon, il va s'en dire que pendant ces temps-là, on n'est pas au boulot, et puis bon, même quand on revient au boulot, même si on est censé garder la même place, c'est pas toujours bien vécu, etc. Au-delà de ça, moi j'ai trouvé l'équipe de France extrêmement entreprenante. Ça change des hommes, et beaucoup, et énormément même. Parce qu'en effet, elles peuvent enchaîner plus de 2 passes d'affilée, ce qui est exceptionnel. Quand on regarde Baptiste Serein faire des places, on se dit, oh là là, quand même, oh, quel demi de mêlée formidable. Et non, en fait, c'est le seul qui sait faire des passes, comme Gourdon. Alors forcément, oh, on est, quand on va les voir faire des passes, oh, et on va jouer les femmes, oh, regarde, oh, oh, ouais, fin des passes, oh, oh, 2 droits d'affilée. Par contre, revers de la médaille, mais ça c'est assez représentatif du rugby féminin. Malheureusement, le jeu au pied, c'est une véritable catastrophe, on dirait moi. Non, et encore, c'est méchante pour elle. En fait, ça s'explique que, je crois que c'était Olivier Livremont qui l'avait expliqué, qu'en fait, les filles, comme malheureusement, pour l'instant, dans la plupart des pays, mais encore en France, il n'y a pas trop de challenge, il n'y a pas trop de... Souvent, un junior, vers les 13 ans, elle est obligée de se réorienter vers des équipes féminines, tout ça. Et comme il y a un petit peu moins d'encadrement, eh bien, le jeu au pied est beaucoup moins... Déjà que nous, en France, déjà, par rapport à la Nouvelle-Zélande ou l'Angleterre, déjà, on s'y colle un peu moins, déjà, par rapport à tout ce qu'on appelle les skills. Parce que là-bas, ils ont plus de facilité à le faire en scolaire, je parle même pas de la Nouvelle-Zélande. Donc, ils sont un petit peu plus assidus là-dessus déjà, donc nous, pour le jeu au pied, du coup, là, on est un petit peu à des années-lumière. Et du coup, la France a décidé, du coup, ne sachant pas jouer au pied, ils ont décidé de jouer à la main. Donc, ça, c'est ce que les hommes ne savent pas faire, c'est-à-dire qu'eux, ils préfèrent faire des petits tas, hein, de temps en temps, ils pètent un câble, hein, c'est-à-dire qu'ils font plus de 2 passes et ils courent dans tous les sens. Magique, formidable. Donc là, voilà, on a vu des belles passes, on a vu des belles prises d'intervalle, on a vu de l'intelligence de jeu, surtout, ce qui est assez rare, d'ailleurs, avec des redoublés, etc. Ce qu'on voit pas chez des professionnels, si ça c'est pas malheureux, je sais pas ce que c'est. Donc par exemple, pour le France-Japon, le 14, j'ai été aussi très étonné par le niveau de jeu de l'équipe japonaise. On sent qu'il y a eu pareil aussi un gros effort de fait. On sent qu'au niveau des gabarits, quand même, on est loin. Hein, parce que quand on voit une joueuse comme Romane Ménager, qui a 21 ans, c'est-à-dire qui a encore moyen d'évoluer de façon stratosphérique, et qui a déjà ce niveau de jeu-là, c'est-à-dire, à savoir... moi, j'ai été impressionné. Pas mal de joueurs françaises m'ont beaucoup étonné sur ce tournoi. Elle en fait partie, Romane Ménager. C'est vraiment, pour 21 ans, elle est impressionnante de maîtrise. Elle a énormément de force, énormément de vélocité. À la main, elle se débrouille bien. Moi, je la trouve peut-être un peu... Elle traîne un peu dans les rucks, encore un peu. C'est là où peut-être elle peut trouver manière à travailler. Mais déjà, un truc qui est bien aussi, c'est qu'elle a une tête de Sud-Africain, c'est-à-dire une tête de poupon, un corps de Golgoth, et ça c'est très bien, ça. Parce que ça fait peur à l'équipe d'en face, ça c'est des gabarits qui font peur. Mais les Japonaises, elles n'ont pas eu peur, parce que je reviens à mes moutons, parce qu'en fait, le Japon, bon bah du coup, physiquement, elles étaient un peu moins dotées, bon, en même temps, je ne sais pas qu'elles avaient fait autant d'entraînement, une préparation aussi éreintante, mais on a vu une très bonne capacité à porter le ballon, beaucoup, même peut-être un petit peu plus d'intelligence de jeu quand on avait le ballon que la France. Elles se sont quand même arrivées à marquer 2 essais. Je pense que c'est une équipe en devenir, qui risque de grappiller des places, parce que je pense qu'ils sont ambitieux. À contrario de l'Irlande, qui, même en étant à domicile, a fait une Coupe du Monde bien merdique. J'y reviendrai, parce que énormément déçu, mais voilà. Donc la France, ouais, sur ce match sur le Japon, moi j'ai vu beaucoup d'intentions, je me suis bien régalé. Après, sur le match France-Australie, alors là, on était tombé sur des gabarits du coup beaucoup plus costauds. L'Australie, pas mal fond du 7, des gabarits, ça va, c'est du beau bébé, quoi. Et ben, j'ai été étonné aussi, 48-0. Pareil, ça a été un vrai... Moi je me suis régalé devant la télé, ça a été vraiment une orgie de rugby totale, voilà, comme on dit, des passes dans tous les sens, de la prise d'intervalle, de l'intelligence de jeu, c'est-à-dire on joue petit côté quand il faut jouer petit côté, on porte le ballon quand il faut porter le ballon. Ça a été très intéressant. L'Australie, par contre, m'a énormément déçu. Je ne pensais pas qu'ils avaient un niveau aussi merdicou. Mais ouais, ça a été très étonné, quoi. Et après, on a eu le France-Irlande, donc 21-5 aussi. La France a eu un peu plus de mal. Parce que l'Irlande, c'est quand même. Voilà, l'Irlande, c'est joué. De toute façon, c'est déjà deux équipes qui se jouent un petit peu plus souvent à cause du tournoi destination. Même si j'ai été relativement déçu par l'Irlande, peut-être pas sur ce match-là, mais je pense qu'ils ont fait des gros matchs de merde. Je trouve quand même que la France a su, à ce moment-là, montrer voilà, qu'elle était, elle pouvait faire partie des favoris sans rechigner. On voyait qu'il y avait un bon placement de jeu, que c'était intelligent. Bon, il y avait toujours ce jeu au pied déficient. Je pense que c'est là où il faudra bosser pour rattraper l'Angleterre et le pays, et la Nouvelle-Zélande. Voilà, c'était pour ça. Après, du coup, pour les matchs de phase finale, on avait un Angleterre-France. Donc là, tout a capoté, malheureusement. C'est-à-dire que juste avant le début du match, il s'est mis à pleuvoir. Et quand on n'a pas de jeu au pied et qu'il pleut, eh ben, on est dans la merde. Surtout que les filles avaient décidé de garder exactement la même stratégie. Je pense que ça a été. Alors, je pense que les coachs, je sais pas si les coachs ont voulu rester sur ce schéma de jeu. Moi, j'aurais probablement fait un jeu un petit peu plus restrictif, à savoir plus de jeux au contact, même si l'Angleterre est une équipe assez massive. J'aurais fait plus de jeux au pré. Parce que en fait les filles se sont un peu fatiguées à faire des passes dans tous les sens, surtout des passes vrillées en plus. Et Dieu sait que quand il pleut, tenter des passes vrillées dans tous les sens, c'est pas forcément la meilleure idée. Ouais, là c'est là qu'on a vu qu'il restait encore pas mal de chemin à faire. Bon, après l'Angleterre aussi, je crois qu'ils avaient probablement, je crois qu'ils avaient le plus du double de sélection. Hein, parce que nous par exemple. C'est Caroline Drouin, je crois, et Montserrat Amédée, ben c'était le début de la Coupe du Monde, c'était zéro. Ils ont été titulaires tout le tournoi quasiment, et c'était zéro sélection, par exemple. Donc forcément, mais bon, voilà, c'est des filles qui sont de 96, c'est quoi, c'est 21 ans, même pas, 22, allez, tout passer, elles sont bourrées de talent. Ça reste quand même prometteur pour l'année prochaine, sachant que, ouais, donc l'Angleterre, je sais pas pourquoi d'ailleurs, ils veulent faire péter les contrats à 15 pour se consacrer aux 7 et plus particulièrement du coup à tout ce qui est médaille d'or pour les Jeux Olympiques parce que le rugby reste aux Jeux Olympiques. Est-ce qu'ils font la bonne idée d'apparemment? Je suis pas sûr à 100% parce que l'Australie est à peu près sur le même schéma là. C'est pas trop ça. Hein. Le Canada a un petit peu plus de réussite pour les États-Unis aussi, mais je pense pas. Je pense qu'il manque un peu des deux, quoi. Donc ouais, là j'ai été un peu déçu par la France. Bon, après, on voit l'intelligence de jeu des Anglaises. Hein. C'était beaucoup plus de jeux au pied, beaucoup plus de jeux au pré. Surtout qu'en plus, elles sont beaucoup plus massives. C'était un jeu destructeur, mais intéressant vu la pluie. Malgré tout, j'étais quand même très sceptique pour la finale, parce que je me doutais bien que la Nouvelle-Zélande, qui s'était fait avoir l'édition précédente, n'allait pas se refaire avoir. Je m'étais dit, on va avoir droit à une explosion de bouchons. On n'est pas passé loin tout de même, avec 41 à 32 pour la Nouvelle-Zélande. Mais quand même, l'Angleterre a fait preuve de beaucoup de cœur et beaucoup de qualité quand même pour se maintenir après une équipe de Nouvelle-Zélande qui a tout fait péter en seconde mi-temps. C'était impressionnant de maîtrise. Du jeu au pied, veux-tu en voilà. On a vu une première ligne complètement folle. Moi, j'avais jamais vu des. Je crois que une des piliers, je ne sais plus laquelle c'est. Je crois que c'est la pilier droit, je crois. Non, gauche. Et je crois qu'elle a mis. Elle a fait un triplé. Elle a fait un triplé. Un joueur de première. Enfin, une joueuse. Bon, bref. Un joueur de première ligne qui fait un triplé. Moi, j'en ai vu rarement. En finale, j'avais jamais vu ça. Et autant vous dire, une finale aussi qui finit sur un score de 41 à 32. Et quand même, ça plaque un peu quand même. Parce que moi, bon, c'était pas non plus. C'était pas journée porte ouverte. Personne ne plaque. On met des essais d'un côté. Et puis, sur le renvoi, FM, etc. Non, non, non. C'était quand même du beau jeu. C'était pas mal. Et après, donc, du coup, pour la troisième place, on avait un États-Unis-France. Là, c'est pareil, bah, il faisait beau. On était contre une équipe pareil, qui avait un jeu au pied et une maîtrise un peu plus du jeu, un peu moins, un peu plus réduite. Bah, on a vu que la France a pu prendre l'ascendant sur elle, donc les États-Unis. Avec beaucoup de jeux. C'était un beau match, je me suis bien régalé, moi. Je trouvais ça intéressant, quoi. Donc, la prochaine Coupe du Monde, alors, elle est quand? La prochaine. On ne veut pas me le dire encore, ça peut être décidé. Bon, parce que c'est pas grave. Donc, elle aura lieu dans 4 ans, normalement. Et ben, je vais donner mes petits bons points aux joueurs françaises aussi, parce que je les ai trouvées très intéressantes. La première ligne, je l'ai trouvée pas mal. Mais sans plus, parce que bon, une fois qu'on a vu la finale et qu'on a vu jouer. Alors, est-ce que j'ai des noms? Une fois qu'on a vu jouer, genre, ben, je crois que c'est Toka Natua, la joueuse de la Nouvelle-Zélande, ah ben là, on se dit, ah oui, il y a quand même encore, il y a quand même encore du boulot à faire. Il y a quand même encore une grosse marge de manœuvre, parce que là, c'est quand même des joueuses, mon pote. Quand t'as ça dans ton équipe, t'es bien content. Hein. Gaëlle Mignot était une très bonne capitaine, moi j'ai trouvé. En ce coup, du moins, c'était sympa. C'était bon, c'est bien de. Je pense qu'elle aurait mérité un peu mieux, parce que c'est une super joueuse, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Par contre, alors, on a eu une deuxième ligne d'anthologie. Corson et Forlani. Quand on se dit qu'au Corson, en plus, c'est même pas une joueuse de rugby au tout départ, hein, c'est, je sais pas ce qu'on faisait du pentathlon, je sais pas quoi, ils avaient dit. Ça, c'est impressionnant, hein, parce que c'est une joueuse du coup qui arrive à se mettre dans. Qui arrive à jouer à l'aile, tellement elle est. Parce qu'elle a une rapidité, ça, c'est impressionnant. Alors, est-ce qu'ils ont osé mettre sa mensuration? Oui et non, elle fait déjà 1m85 les enfants. Autant vous dire, c'est un très beau gabarit. Elle est, pour son poids, c'est assez impressionnant quand même, parce qu'elle est déjà chez les bonhommes qui courent comme ça, genre rarement. Moi, pour vous dire, cette deuxième ligne, elle m'a fait. Moi, je dis, Sam Whitelock et Rétalik, là, chez les mecs, là, à Nouvelle-Zélande, oh, les fous d'or, mais à la place. Ah ouais, c'était mieux. Non, franchement, c'était une super deuxième ligne. Je pense que c'était la meilleure deuxième ligne du tournoi, de loin, je pense. Derrière, après, on avait une troisième ligne, elle, enfin une troisième ligne, globalement, parce qu'en fait, je suis en train de regarder, je confonds. Pareil, c'est assez impressionnant de maîtrise. J'ai l'impression d'être revenu à l'époque où on avait Olivier Magne, on avait Serge Betsen, quand Yannick Nianga a été sélectionné, parce que Yannick Nianga, il était bon. Je cherche un ancien joueur, s'il était troisième ligne aussi, je crois. Ce brave, non, je me trompe pas. Non, je me trompais. Non, ouais, tout ça, Olivier Mann, tout ça. Bref, une excellente troisième ligne. Donc, à savoir, les quatre ont été excellentes. Manon André, on l'a un peu moins vu quand même. Parce qu'elle était qualifiée. Bon, c'est qui est qualifié centre, là. C'est le troisième ligne centre. Donc, on avait, au départ, on partait sur Roman Ménager, Safi Ndiaye et Marjorie Mayens, qui avant était centre, je crois. Et après, on avait Julien Henry qui est rentré un peu plus tard dans le. Qui est rentré un petit peu plus tard dans la rotation. Qu'est-ce que j'en ai pensé, moi? Alors, moi, déjà, j'ai trouvé que Safi Ndiaye, je l'avais trouvé un petit peu moins intéressante ces dernières années. Là, on sent que la préparation, ça lui a. Là, la préparation physique, ça lui a tout fait péter. Hein. Ça a été dantesque. Franchement, tous les ballons, elle avançait. Sur tous les règles, elle faisait chier tout le monde. Elle faisait des passes. Des jolis petits caviar. Franchement, je l'ai trouvé métamorphosée. Elle a été superbe. Je me suis régalé. Et après, le reste de la troisième ligne a été du même tonneau. Donc, on avait Marjorie Mayens qui a découpé et qui a porté le ballon comme elle n'en pouvait plus. Et Roman Ménager qui a fait aussi un super tournoi. Assez impressionnant pour 21 ans aussi. Elle est de 96, du coup. Quand on se dit que c'est une joueuse en devenir, c'est impressionnant. Par contre, elle a subi une commotion et du coup, on a fait rentrer un peu mieux dans la rotation Julien Henry. Et là, ça a été aussi pareil, je pense que ça a été pour moi la grosse révélation chez les Français pour le tournoi. Je sais que Roman Ménager avait déjà de grosses qualités, j'en étais sûr. Je savais déjà que ça faisait partie du top des joueuses déjà. Elle avait des grosses qualités athlétiques. Mais alors, Julie Henry, quand j'ai vu son âge après, j'ai pleuré parce qu'elle est de 95 et elle est impressionnante aussi. Le match contre les États-Unis, elle était au four et au moulin, elle a tout fait péter, c'était formidable. Et après, derrière, ça a été pas mal. Bon, moi, j'ai surtout été étonné par, comment elle s'appelle, Montserrat Amédée, qui pour une joueuse qui n'avait pas de sélection, quand même, un bon jeu au pied. Faut qu'on va recadrer, quand même, un bon jeu au pied, voilà. C'est une joueuse assez pareille à suivre, parce que celle aussi, 96. Surtout elle qui m'a étonné dans les lignes arrière. Après, bon, c'est pareil, quand on voit jouer la Nouvelle-Zélande ou l'Angleterre, derrière nous, ça quand même, on a des bonnes joueuses. Shannon Izar, bon, Guy Guillon, c'est qu'elles ont des bonnes qualités. Poublin aussi, la Danube, bon, voilà. Mais on sent quand même que les Anglais avaient quand même des meilleurs joueurs. Le Canada aussi a des très bons trois quarts. Ah oui, moi j'ai été pas mal étonné. Donc, ouais, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette Coupe du Monde. J'espère pas avoir dit trop de gâcheries, ni trop de conneries d'ailleurs. Moi je me suis bien régalé, voilà. C'est assez rare pour le dire, parce que l'équipe de France, autant vous dire, chez les mecs. Dieu sait qu'on se fait chier, Dieu sait qu'on perd, hein, ça, je vous le fais pas dire. Bon, de temps en temps, on se régale, on finit à 3 points de la Nouvelle-Zélande, on fait des matchs sympas, et après, on va en Italie, on a chi du pommier, ça, c'est très équipe de France, ça. Hein. Je vous parle même pas de la tournée vidéo gag en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, pardon, on s'est pris 3 branlées plein la gueule. À noter que les mecs ont touché plus de pognon en perdant 3 fois que les filles, je parie, en arrivant à la 3ème place. Ah ben, la l'égalité, mais pas trop quand même, hein, faut pas déconner. Hein, alors que pour moi, elles auraient dû mériter bien plus que ça. Parce que franchement, bravo à elles, faire ce qu'elles font, c'est super. Ben j'espère que pour la prochaine Coupe du Monde, on arrivera un peu plus haut. Moi, je pense que quand même, encore une fois, la Nouvelle-Zélande, c'est un peu l'épouvantail, parce que la Nouvelle-Zélande gagne chez les mecs, et gagne chez les moins de 20 aussi, en étant impressionnant en plus chez les moins de 20. Hein. Donc ça prouve qu'ils ont un réservoir énorme, parce que eux, ils peuvent s'amuser à compter les... Ils peuvent, par exemple, foutre des horreurs, il y a des horreurs chez eux qui partent. Chez nous, c'est pas possible, c'est un ouvreur français, il peut pas partir chez nous. C'est ça, il y en a pas. Qu'est-ce que tu veux qui part? Il y en a pas, on en a trois qui se battent en duel, là, si vous voulez qu'on fasse. Nous, on les recrute, hein, les ouvreurs qui veulent pas, là. Faut se rendre compte, ça, quand même, ça, c'est impressionnant, quoi. Donc on verra chez les filles, je sais qu'on a pas mal de bons leviers, donc là, l'Angleterre qui baisse un peu pavillon, là, donc je pense qu'il y a moyen de prendre le leadership européen, et je sais que si le rugby se maintient en termes de licenciés, et bien c'est surtout parce que les filles s'inscrivent en école de rugby, et je trouve ça très bien, et j'espère d'ailleurs que bientôt le top 8 va évoluer, qu'il y aura un peu plus de jeux, un peu plus d'enjeux, que ce sera surtout mieux suivi, etc., parce que ça le mérite, parce que le rugby féminin c'est super. J'espère que ça ne prendra pas la tournure du football féminin qui était super et qui est devenu chiant comme le football masculin parce que tout le monde se connaît, tout le monde fait de la vidéo. De toute façon, quand je critique le foot là, mais c'est pareil pour le rugby, les mecs. Hein, les types, ils connaissent tous la vidéo par cœur. Il ne se passe rien, particulièrement en France où l'enjeu tue le jeu. Alors, je crois que le jeu, ça fait 1000 ans qu'il est mort. De temps en temps... Ouais, quand il y a les matchs de phase finale, de temps en temps, il y a un peu de jeu, parce que les mecs, ils sont canés, qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'ils se sont tapés 30 matchs dans l'année, et les types, ils font la défense porte de saloon, là, hop, et voilà, et c'est le merdier. Et sinon, il ne se passe quasiment rien. Hein. Il y a des matchs chiants. De toute façon, l'homme de foule dans le midi olympique, il mette match un peu... Eh putain, si on m'avait donné 1 euro à chaque fois que je disais match un peu... Pour les mecs, et je peux te dire déjà que... J'irai voir des matchs de la Nouvelle-Zélande en première classe et là-bas j'achèterai une Ferrari pour faire un retour pour Echo Stade. Enfin voilà, c'était un petit peu mon coup de gueule, il en faut un de temps en temps, écoutez, mais en tout cas j'espère que tout ça va s'améliorer dans les deux sens. Chez les femmes, on a les cartes en main, faut pas déconner, chez les mecs il y a encore pas mal de choses à faire pour reprendre un bon leadership, mais je pense que les filles, elles ont leur avenir en main. Il y a de la jeunesse, il y a de quoi travailler sereinement. Écoutez, les enfants, ça arrive, je vous laisse. Donc, c'était Gandalf80, donc @Gandalf80 sur Twitter. Je vous dis à très bientôt pour un épisode normal de 15 bras, 15 jambes. En attendant, je vous dis, regardez du 7, même regardez du 13. Hein. Je ne vous en voudrais pas, ne vous inquiétez pas. Regardez la première chip, regardez le top 14 si vous voulez vous faire chier, regardez la Pro D2 si vous voulez rigoler en regardant les prolos, mais regardez du rugby, ça fait du bien. Allez les enfants, à bientôt.
Ah, on est bien rigolé.